Donc, comme j'ai dit, on commence la nouvelle saison d'hiver. Ah non, il n'y a plus de fête jusqu'à Pessah. Surtout cette année qu'on a. C'est une année enceinte, comme ça s'appelle en hébreu. Shana Merouberet. On a 2 mois de Hadar, donc on a, Baruch HaShem, une bonne période sans interruption. On va pouvoir bien avancer dans les halakhot de Shabbat. Baruch HaShem. Donc maintenant, on espère faire des cours maintenant de manière suivie, chaque semaine, de manière régulière. Et voilà, en espérant que Bezrat Hashem, on va pouvoir avancer dans notre Homer de Ilkhot Shabbat. Alors, maintenant, on va commencer une nouvelle série de cours. C'est-à-dire quoi, quand je dis nouvelle série, on est toujours dans Ilkhot Shabbat. La halakhot de Shabbat, surtout dans les cours qu'on étudie ensemble, on étudie les melachot de Shabbat. D'accord? Melachot de Shabbat. Qui sont au nombre de 39. 39 melachot interdits le jour du Shabbat. Ça fait déjà plus qu'un an, je crois. Plus qu'un an, même un an et quelques, un an et demi, qu'on a commencé la halakhot de Shabbat. On a fait d'abord plusieurs cours d'introduction. D'accord, pour expliquer bien des notions très importantes dans l'Hilchot Shabbat. Et après, on a commencé toute une série de melachot de Shabbat qu'on a étudié en long et en large. Certains, ça nous a pris pas mal de temps, certains, ça a été court. Ça dépend des melachot. Maintenant, on va commencer un nouveau groupe de melachot. Alors, quand je dis groupe, il faut que je m'explique d'abord. Les 39 melachot, ça, on n'a pas expliqué ça qu'on a vu dans les cours d'introduction. Bon. Seulement les 39 mélachot, on peut les partager en quatre grands groupes, on va dire. Et en fait, nous, on a quasiment terminé le premier groupe de cette répartition là-bas des 39 mélachot. Alors pourquoi je partage en 4? Ah oui, mais on a dit que les 39 mélachot de Shabbat, quand je dis mélacha, d'accord, c'est action interdite de faire le jour du Shabbat. Il y a 39, on va dire, paires avot melachot. Av, c'est paires d'actions interdites le jour du Shabbat. Maintenant, chaque action, elle englobe beaucoup, beaucoup d'actions qui ressemblent et qui rentrent dans le même groupe et dans la même définition de cette action-là qui est interdite. Maintenant, d'où ça vient ce chiffre 39? Bien sûr, comme on a expliqué à chaque fois, et à chaque fois on répète, c'est la base de toute la halakhot Shabbat, c'est dans la construction du Mishkan. Tout ce qui fait partie de la construction du Mishkan est en fait interdit le jour du Shabbat. D'accord? Tout ce qui fait partie de la construction du Mishkan, du tabernacle dans le désert, qui est ça, qui est marqué dans plusieurs parachiotes, on sait comment on a construit le Mishkan, toutes les actions de construction du Mishkan sont en fait les actions qui sont interdites le jour du Shabbat. Comme ça, on apprend, il y a une comparaison dans la Torah entre la fabrication du Mishkan et le Shabbat. Maintenant, on a étudié pour l'instant, normalement, pour construire le Mishkan, qu'est-ce qu'il faut en gros? En gros, le Mishkan, c'est pas comme le Beth Amikdash qui est fait à base de pierre. Le Beth Amikdash, c'est une vraie construction de pierre. Dans le Mishkan, c'était pas de la pierre, c'était des bois. D'accord? Des poteaux. Et sur ces poteaux, il y avait toutes sortes de tentures. D'accord? Des pots ou des choses qui sont tissées à base de laine. Maintenant, comme ces pots là-bas, ils étaient de toutes les couleurs, donc il fallait faire de la couleur. Pour obtenir de la couleur, il y a tout un processus. Comment on obtient de la peinture dans le désert? Bien, il faut planter une graine. Il faut labourer, il faut planter une graine, après il faut la cueillir, après il faut battre, après il faut mettre en tas les graines, après il faut trier, puis moudre, après moudre, encore une fois tamiser, après tamiser, cuire, non, une fois qu'on a tamisé, on moud, une fois qu'on a terminé tout ça, on cuit. Qu'est-ce qu'on cuit? On obtient cette poudre-là qui est faite à base de ces graines qu'on a plantées, qu'on a semées, qu'on a coupées. Et on cuit ça dans une marmite sur du feu. Tout ça pour obtenir quoi à la fin? De la peinture. Pourquoi cette peinture? Pour colorer les pots. Il y avait des pots de daim, des pots de terrachim, des pots de élim, de bouc. D'accord? Et, ou bien il y avait aussi d'autres sortes de choses qui fait les colorer. C'est des tentures qui sont faites à base de laine. D'accord? Donc tout ce processus là que je vous ai dit pour obtenir la peinture, chaque étape, c'est une melacha. D'accord? Maintenant la Mishnah, pour que ça soit plus simple à nous, elle nous a donné un moyen mnémotechnique de la fabrication du pain. C'est pareil, c'est la même chose. Pour avoir du pain, c'est comme pour avoir de la peinture. Il faut que je prenne un grain de blé, il faut que je laboure, il faut que je sème, il faut que je cueille, il faut que je mette en tas, il faut que je batte le blé, et il faut moudre, et il faut pétrir, et il faut cuire, il faut trier. Donc toutes ces étapes-là, c'est comme le pain, c'est comme la peinture. Seulement le pain, c'est pas dans la construction du Mishkan, la peinture, c'est dans la construction du Mishkan. Dans chaque étape que je dis là-bas, c'est en fait tous les cours qu'on a étudiés durant les 1 an et demi jusqu'à maintenant. On a étudié en long et en large qu'est-ce que c'est labourer, après qu'est-ce que c'est semer, qu'est-ce que c'est trier, ça nous a pris pas mal de temps trier, qu'est-ce que c'est moudre et couper et qu'est-ce qu'on a encore, cuire, bichoul, ça nous a pris pas mal beaucoup de temps. Et Bichoul, on est passé à Mavir, on a fait tout un tas de chiorim et plein de cas qui sont très pratiques, qui découlent de toutes ces étapes-là. Là, on a fini tout un circuit. À part l'âche qu'on n'a pas encore vu, pétrir qu'on n'a pas étudié ensemble. Là, il faudrait l'étudier. Maintenant, on passe à la deuxième shlav, deuxième série de melachot. C'est quoi cette série de melachot? Une fois qu'on a de la peinture, maintenant, on va peindre. On va colorer. Qu'est-ce qu'on va colorer? Alors, il y a deux sortes de pots. Il y a deux sortes de couvertures qui couvrent le Mishkan lui-même. Il y a ou bien des pots, ou bien des choses qui sont fabriquées à base de laine. C'est-à-dire, comme toute une étendue de laine. Un habit, en fait, un grand habit, une genre de couverture qui est fait à base de laine. Maintenant, comment on a de la laine dans le désert? On prend la laine des moutons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour que j'ai tout un bel habit de laine prêt à être coloré avec la couleur que j'ai déjà obtenue dans toutes les étapes qu'on a vues avant. Alors, il va falloir premièrement tondre le mouton. D'accord? Une fois que j'ai tondu le mouton, qu'est-ce que j'ai? De la laine. Après cette laine, il va falloir la laver parce que une laine de mouton n'est pas très propre pour pouvoir faire un habit. Il faut laver. Donc on va laver cette laine. Après, une fois qu'on va laver cette laine, on va la battre, on va taper dessus. C'est aussi, on va expliquer ça quand on arrivera à Bismano. Et on frappe, il y a tout un épisode de frapper cette laine pour sortir, pour que le meilleur de la laine sorte. Ensuite, on va colorer cette laine. Après, on va tisser. On va commencer à tisser cette laine, à coudre. D'accord? Pas coudre, tisser, ouais. Et donc là, on a plusieurs melachot qui vont rentrer dans ce shlav-là de tisser. Comment on tisse la laine? Là, la Gemara rentre dans tous les détails de toute la couture. Il faut que je fasse à base de cette laine. Dans ce menapet, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est en fait transformer la laine à l'état naturel en fil. Une fois que j'ai des fils, donc on colore ça avec la peinture qu'on a obtenue tout à l'heure. Et après, je vais commencer à tisser. D'accord? Maintenant, quand on tisse et quand on fabrique une laine, on a affaire à deux sortes de choses. Première chose, c'est qu'une fois qu'on termine, même sur l'aiguille, il va falloir faire des nœuds. D'accord? Pour que le fil il tient bien sur l'aiguille, on a besoin de nouer. Donc il y a faire des nœuds et défaire les nœuds. Une fois qu'on a fabriqué l'habit, des fois lorsqu'on est en train de le tisser, on risque de faire une retouche ou une erreur. Donc on déchire pour pouvoir recoudre derrière. D'accord? Donc en bref, si je veux fabriquer un habit, dans la fabrication du Mishkan, c'est quoi fabriquer un habit? C'est toute une tenture qui n'est pas faite à base de peau, parce qu'il y avait des tentures faites de peau, il y avait des tentures qui étaient faites à base de laine. Maintenant, il n'y a pas de peau en laine. La laine, il faut la coudre, il faut la tisser. Donc il faut d'abord tondre le bouton, laver la laine, faire des fils, colorer, tisser, et dans le travail de la couture qu'on a pour faire tout une étendue d'un habit qui est fait à base de laine, on a tout de suite des actions qui sont obligatoires, c'est-à-dire coudre ou découdre, ou déchirer et coudre. Pas coudre ou découdre, non, excusez-moi. Nouer ou dénouer. Nouer ou dénouer, on a besoin de faire des nœuds pour terminer l'habit, on a besoin de faire un nœud en bas pour mettre le fil sur l'aiguille, on a besoin de nouer, on est obligé de faire un couturier, il est obligé tout le temps ou bien de nouer ou dénouer, ou bien de déchirer et de coudre. D'accord, déchirer et coudre. Toutes ces actions-là pour à la fin avoir une belle tenture qui est faite en laine. Donc maintenant, c'est ce qu'on va étudier dans les cours à venir, dans les mois à venir. Chaque étape, d'accord, tout ça on a besoin, bien sûr, pour recouvrir le Mishkan. Il y avait des endroits où on recouvre avec de la peau. Donc par exemple, dans la peau, ça va être les cours d'après, plus tard. Pour avoir une peau, il y a aussi tout un... Ça, c'est la troisième série de Melachot. Pour avoir une peau, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une peau de daim, par exemple? De élim, de bouc.
Chasser.
Chasser. Voilà, il y a fait. Faut chasser. Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire après une fois qu'on a chassé la bête? Il faut l'abattre. D'accord, il faut la tuer. On peut pas dépecer une bête vivante. Donc il faut la tuer. C'est chochet. Une fois qu'on a fait chochet, il faut dépecer la peau. C'est mafshit. Après, il faut travailler la peau. La tannerie, mais abed. Après, il faut rendre la peau lisse. Pas la peau lisse, ouais. La peau, il faut la rendre bien lisse. Donc, il faut la, je sais pas comment on dit ça en français, polisser, ouais. Polisser la peau pour enlever toutes les saletés, pour bien la rendre bien. Nickel, c'est memachek. Et après, il faut la couper. Découper. Et après, on a une belle teinture en peau. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette peau-là? On va la colorer avec la peinture que j'ai fabriquée dans toutes les étapes qu'on a parlé tout à l'heure pour la fabrication de la peinture. D'accord? Ça sera le troisième groupe de Melachot. Et après, il nous restera tout un groupe pour la construction et même du Mishkan qui n'a rien à voir avec les peaux. C'est bien sûr édifier le Mishkan, faire monter un binyan, ça c'est construire et déconstruire. Il y a écrire et effacer, parce qu'il y avait plusieurs poteaux. Et à chaque fois, dans Parashat Bamidbar, à chaque fois il fallait démonter le Mishkan, remonter le Mishkan. Donc il fallait toujours que les poteaux soient un à côté de l'autre. Comment on fait pour savoir? On met numéro 1, numéro 2, numéro 3. On écrit sur les poteaux. Et si on écrit qu'on a fait une erreur, on efface, on écrit. Donc il y a écrire, effacer, construire, détruire. Et Mavir Mechabe, on a parlé de ça, allumer, éteindre. Il y a Makeb et Patish, et puis il y a aussi de faire passer les poteaux d'une... il y avait des genres de roulottes, qui c'est Reshut Hayachid, et il fallait le faire sortir dehors dans le désert. Donc il y avait Reshut Hayachid, sortir d'un domaine à un autre domaine, pour traverser les poteaux, ça c'est Reshut. Donc ça c'est la dernière série des Melachot, qui sont à la construction du Mishkan. Donc on revient maintenant à la deuxième kvoutsa, deuxième série de Melachot, qui est en fait obtenir une teinture qui est faite en laine. D'accord? Donc la première Melacha qu'on va étudier, qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, c'est comment j'obtiens la laine. Comment on obtient la laine? Comment on obtient la laine? Voilà, on tond le mouton. Ça, c'est une melacha. Chaque étape qui est importante et qui est indispensable pour continuer dans toutes les étapes de je viens d'arriver à ma phase finale, c'est une melacha. Donc maintenant, ce qu'on va commencer à étudier, c'est cette étape-là. En hébreu, ça s'appelle Gozez. Gozez. Gimel, vav, avec deux aïn. Ligzoz. Tondre, en hébreu, c'est gozez. Tondre le mouton, c'est le av melacha. C'est quoi av? Av, c'est le père. Ça veut dire, en fait, c'est l'action père. Donc, on va faire comme on a fait dans tous les cours de Hilchot Shabbat jusqu'à maintenant. On va commencer à réfléchir sur l'action qu'on fait et la définir. Définition, ça c'est l'étape la plus importante dans le cours. C'est définir bien la melacha. Une fois qu'on a bien défini la melacha, on a compris ce que c'est. Après, on va voir les dérivés, les toldot, c'est-à-dire toutes sortes d'actions qui ressemblent à ça, mais qui ressemblent pas, c'est pas exactement le mouton, mais on va appliquer ça à plein d'autres choses qui sont exactement pareilles dans la définition de mon acte. D'accord ? Et après, on va commencer à voir, bien sûr, tout ce qui est Midei Rabbanan, c'est-à-dire tous les xérot de Chachamim qui tournent autour de ça, des interdits de la Torah, parce que Av et Tolda, les deux c'est exactement pareil, c'est des interdits de la Torah. Donc tout ce que je dis, c'est en fait, c'est dans les cours d'introduction. Ça je répète toujours plusieurs fois, là, mais comme on commence une nouvelle série de cours, donc je rappelle que les cours qu'on a fait dans les introductions, qui sont enregistrés d'ailleurs, ils sont très importants. C'est la base de tous les cours, en fait, c'est la clé de tous les cours. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on va utiliser des notions qu'on a vues dans l'introduction. Donc, très important d'écouter ces cours. Donc, comme on a vu dans les cours, en bref, c'est Av et Tolda. Av et Tolda, c'est-à-dire père et Tolda dérivé. Tout ça, c'est tout un ensemble d'actions qui répondent à la définition de cet acte-là qui s'appelle Gozez, tondre le mouton. D'accord ? Clair jusqu'à là? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si je dis des mots en hébreu qui sont pas compréhensibles, si je dis des phrases qui est même une phrase entière qui est incompréhensible, arrêtez, dis-moi, j'ai rien compris. Il n'y a pas de problème, je répète. Donc on va définir maintenant l'action de tondre le mouton. Comment on va définir ça? Quand je dis tondre le mouton, j'ai rien défini. Je suis en train de dire ce que je suis en train de faire, mais cette action, elle a une définition. Qu'est-ce que c'est? C'est détacher un élément de sa source de vie dans le domaine animal. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est rattaché à sa source de vie. C'est-à-dire sa vie, c'est rattaché à quelque chose. Qu'est-ce que je fais moi dans mon action? Je détache, je la coupe, je la sépare un élément de son endroit où c'est en fait sa source de vie. Maintenant, à quoi ça vous fait rappeler cette action-là dans les mélachotes qu'on a déjà étudiées?
Trier.
Trier
peut-être.
Pourquoi trier?
On sépare.
Trier, c'est séparer deux aliments. Il n'y a pas de source de vie.
Ouais.
C'est.
L'action séparée.
Ouais, il y a séparé, c'est vrai. Mais. C'est pas la source de vie. Moi, je demande quelque chose vraiment qui répond exactement à la même définition. Seulement, il y a un petit point qui sépare.
Éplucher une orange.
Éplucher une orange. Ça, c'est comme il dit, ça rentre en trier, ça. C'est séparer l'épluchure de l'orange elle-même. Il y a quelque chose, il y a une melacha dans la première série de melachot, qui répond exactement à la même définition. Je vous rappelle, je vais vous dire toute la liste. Pour obtenir de la peinture, comme on expliquait tout à l'heure. Première chose qu'il faut faire, il faut creuser. Après, il faut planter. Après, une fois qu'on a semé, on cueille. Une fois qu'on cueille, on bat le blé. Après, une fois qu'on bat le blé, on trie. Une fois qu'on trie, on moue. Une fois qu'on moue, on pétrit. Une fois qu'on pétrit, on cuit. Dans tout ce que j'ai dit, quoi ça ressemble?
Cueillir.
Voilà, très bien. Cueillir. Cueillir, c'est exactement pareil. Cueillir, j'ai une fleur. La fleur, elle est bien épanouie, une belle fleur. Elle est rattachée à la terre. Si je coupe la fleur, elle commence à mourir, la fleur. Elle ne va pas tenir longtemps. Je l'ai détachée de sa source de vie qui est la terre. Donc exactement pareil ici, dans la laine du mouton. La laine, elle est attachée au mouton. Dès que je détache la laine du mouton, je l'ai coupée de sa source de vie. La laine, si je la laisse longtemps comme ça, ça n'a rien à voir avec une laine qui est rattachée à la bête. Il y a une vie, elle est rattachée. Donc c'est exactement la même mélacha. Alors pourquoi on fait ça en deux mélachot? Après, si c'est la même définition, c'est la même action. Seulement, il y a une différence. Là, c'est le monde du végétal. Et là, c'est le monde animal. C'est la seule raison qu'on a séparé ça en deux. Ça veut dire que toutes les actions qui sont dans le monde végétal, ça va répondre à la melacha de kotser, cueillir. Et tout ce qui va être dans le monde animal, et quand je dis le monde animal, c'est pas seulement animal, c'est même homme. D'accord ? L'homme, la seule différence qu'il a avec l'animal, c'est qu'il parle. Donc lui, l'homme, c'est une section à part. C'est le monde qui parle. Mais ça rentre dans le secteur animal. C'est pas végétal. D'accord ? Ça s'appelle en hébreu, il y a quatre classes. Il y a domem. Domem, c'est inerte. Après, on a somear, c'est végétal. Après, on a chay, c'est animal. Et après, on a medaber, parle. La parole. La parole, c'est ça qui différencie l'homme d'une bête. Le monde de l'homme et le monde de l'animal. En tout cas, dans les deux cas de figure, et dans l'homme et dans l'animal, si on détache un élément de sa source de vie, c'est Melechet Gozez. D'accord ? Alors on va donner des exemples maintenant de toldot, c'est-à-dire d'actions qui sont en fait les fils de ce père-là. Et vous allez voir que vous allez mieux comprendre, plus d'exemples.
Allô ?
Oui ?
Une coupure.
Allô ? Vous m'écoutez ? Allô ?
Qui est parti ?
Tout le monde écoute ? Connecté à l'audio. Oh. Opa. C'est bon?
Ah, ça y est.
M'écoutez?
Oui.
Oh. On continue. Donc on va donner plusieurs exemples maintenant de Melechet Gozez. Donc dans le monde animal. D'accord, dans le monde animal, on a parlé de la laine qui est sur du mouton. Il peut y avoir aussi par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, dans les peaux, si j'enlève les poils de la bête. D'accord, sur une peau de vache, il y a des poils. Si j'enlève les poils aussi, c'est pareil. C'est Melechet Gozez. Dans l'homme, par exemple, il y a toutes sortes de choses qui sont rattachées à l'homme. Et qui sont en fait, qui vivent parce qu'ils sont rattachés à l'homme. Exemple, les cheveux. Quelqu'un qui va chez le coiffeur, Shabbat, d'accord, aller chez le coiffeur. Et le coiffeur qui prend ses ciseaux, ou bien sa tondeuse, comment ça s'appelle ? Tondeuse, ouais. Et qui coupe les cheveux, quel melacha il fait ? Il fait Melechet Gozez. Quelqu'un qui se rase, c'est Melechet Gozez. Pourquoi c'est Gozez? Parce que les cheveux, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme. C'est pas le corps. C'est des choses qui sont plantées dans l'homme. Ouais. Et qui vit, puisqu'il est rattaché directement dans le corps, sa vie. Dès que je coupe ça, donc je détache de la source de vie du cheveu qui est l'homme, c'est Melechet Gozez. Se couper les ongles, pareil, couper les ongles, il y a l'ongle c'est pas partie du corps, c'est pas la chair, c'est quelque chose qui est rattaché au corps de l'homme et qui vit, d'accord, qui prend une source de vie, la source de vie c'est le corps. Si je prends un coupe-ongle et que je coupe les ongles, je détache cet ongle du corps, c'est Melechet Gozez. Donc encore une fois, il n'y a rien à voir avec tondre un mouton et couper les ongles. Mais les deux, ça répond exactement à la même définition. C'est dans le monde homme-animal, c'est pas dans le monde végétal, et je détache, d'accord, je détache quelque chose, un élément, de sa source de vie. Donc on a parlé des ongles, on a parlé des cheveux, on a parlé des poils qui peuvent être sur une peau animale. Ça peut être les plumes d'un poulet. Pareil, la plume elle est attachée à la peau. Dès qu'on détache la plume, ça détache de son endroit de vie. Ça peut être aussi la peau. Des morceaux de peau qui sont collés que j'essaye d'arracher. Donc en arrachant la peau c'est la... C'est partie, sa source de vie, c'est le corps. Dès que je détache et j'arrache la peau, c'est Melechet Gozez. D'accord ? Toutes ces actions-là que je vous ai dit maintenant, ça en fait tous des dérivés, des toldot, à l'action père qui est en fait tondre le mouton. Tondre le mouton qu'on faisait dans la construction du Mishkan pour faire une belle teinture en laine. D'accord ? Claire ? Maintenant. Pour Kamouvan, toujours on dit qu'il y a le shiur. Shiur, ça veut dire il y a, pour que ça soit une vraie melacha, une vraie action interdite, il faut qu'il y ait un certain shiur. Shiur, c'est une mesure. Alors là, c'est un peu compliqué dans cette melacha parce que chaque chose que je prends, ça va dépendre. Par exemple, si c'est des cheveux, la Gemara elle dit qu'il faut deux cheveux, deux poils de cheveux. Si j'enlève un poil de cheveux, il n'y a pas de shiur. Maintenant, à quoi ça sert de savoir les chiots ? C'est intéressant pour savoir qu'est-ce qui s'appelle Melacha à titre de Chayav et de Patour. Mais c'est tout le temps interdit. Peu importe. Que je fais une partie infime, ça s'appelle que je fais une action interdite. Seulement, hein, ce n'est pas encore une Melacha, comme on a expliqué dans les cours d'introduction. Une vraie Melacha, il faut faire quelque chose d'important. Donc il y a un certain chiot. La Gemara a dit même quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un a un poil de cheveux blanc parmi des poils de cheveux noirs. Il a 20 ans, il a tous ses cheveux qui sont noirs, et il a un poil blanc qui a poussé. Donc maintenant, il veut enlever ce poil blanc-là. La Gemara a dit qu'il est khayav. Pourquoi il est khayav? Parce que là, un poil blanc, quand tu l'enlèves, là, c'est important. Parce qu'il dérange vraiment. Donc c'est comme deux poils noirs. La Gemara dit même que, à part le fait de Shabbat, même en semaine, on n'a pas le droit. Pour un homme. Un homme, il n'a pas le droit d'enlever. Si par exemple, il a un poil blanc sur sa tête, comme ça, sur les cheveux, il a un poil blanc, il veut enlever. Ça s'appelle Lo Ilbash Ish Gever Silmlat Isha. C'est une action qui est liée aux femmes. Donc l'homme n'a pas le droit d'enlever un poil blanc parmi ses poils noirs. Ça aussi, la Gemara dit. D'accord ? Donc ça, c'est le chiour dans les cheveux. Un des exemples qu'on a dit. Le chiour dans les cheveux. D'accord ? Il y a encore plein d'autres chiourim. On va pas, de toute façon, on n'a pas rentré dans tous ces 9 caminotes. Donc l'action qui est interdite, c'est détaché. Maintenant, on continue. Les interdits des chachamim. Les interdits des chachamim, des rabbanan. Comment ça va être ici? Avec toujours dans chaque melacha qu'on étudie, il y a l'action qu'on vient de définir, l'action qui est interdite par la Torah, et les chachamim qui interdisent. Par exemple, si je déconnecte, encore une fois, la définition c'est déconnecter un élément de sa source de vie. Si je fais cette action, mais cette action elle est bizarre, elle n'est pas normale, chinouille, ce qu'on a dit dans les interdits des chachamim. Si je fais une action qui est définie, dans sa définition, c'est la melacha. Seulement, les gens n'ont pas l'habitude de faire cette chose-là. Donc, mon action est bizarre. Si ça sort de l'ordinaire, je ne peux pas dire que je fais une melacha. Parce qu'une melacha, c'est une action importante, normale, pas anormale. On a donné là-dessus toujours plein d'exemples. Quelqu'un qui écrit de la main gauche, on a vu plusieurs choses. Toutes sortes de choses, on a vu dans tous les shiurim d'avant. Donc, même dans notre cours, on va voir. Qu'est-ce qui s'appelle anormal? Alors si par exemple, je tombe de manière anormale, c'est-à-dire, il y a deux mots en français qui s'appellent, que ça dépend de ce que j'utilise. Est-ce que j'utilise un cli, un ustensile, ouais, approprié à ça, ou bien je fais ça avec les mains. Alors, en faisant un ustensile, ça s'appelle tondre. Ça s'appelle couper, ça dépend ce que je fais. Par exemple, si je me coupe les cheveux et je prends un ciseau, ça s'appelle je coupe les cheveux avec un ciseau. Qui c'est qui va s'arracher les cheveux? Il veut se couper les cheveux, il s'arrache les cheveux. S'arracher les cheveux, c'est quelque chose de bizarre. C'est pas normal. Quelqu'un qui veut se couper les cheveux, il prend une tondeuse ou des ciseaux. Donc quelqu'un maintenant qui s'arrache des cheveux pendant Shabbat, avec la définition, elle est claire. J'ai enlevé un élément de sa source de vie. Mais puisque la manière dont je le fais, elle est bizarre, elle n'est pas normale. Donc je ne peux pas dire que je suis en train de faire une mélacha. Une mélacha, c'est normal, je fais quelque chose de normal. Donc ça sera interdit, pour ne pas permettre, parce que quand même je réponds tout à fait à la définition. Mais ça n'interdit des chachamim. Alors ça a plein de répercussions, ça. Quand celui qui a l'habitude et qui suit bien les cours, il y a une énorme différence si je dis que ça interdit des chachamim ou si je dis que ça interdit de la Torah. Ça aussi, on a bien expliqué dans les cours d'introduction. Quelle différence si je dis que ça interdit des chachamim, si ça interdit de la Torah. On va voir aujourd'hui même des cas pratiques là-dessus. Donc pareil dans la... Revenons à nos moutons. Si je tond la laine du mouton, alors comment on tond les... Comment on tond les moutons? Avec un... Je sais pas... Hein?
Avec un appareil.
Voilà, il y a un appareil spécial.
Tondeuse.
Voilà, une belle tondeuse, un peu plus grande que la tondeuse des cheveux, mais une plus petite qu'une tondeuse à gazon, mais c'est une tondeuse de mouton. Jamais vu comment c'est. Mais on utilise un appareil. Maintenant, quelqu'un qui va au zoo et qui décide d'embêter un peu le mouton et de lui arracher un peu de laine. Est-ce qu'il fait une action normale ou anormale?
Anormale.
C'est anormal. Donc, quelqu'un qui s'amuse à tirer un peu de laine du mouton pendant Shabbat, d'accord? Ça sera chinouille, c'est pas normal et ça n'interdit des chachamim. Seulement, si je tonds avec un ustensile, ça sera un interdit par la Torah. Donc, c'est comme on dit en français, il y a un mot qui s'appelle arracher et tondre. Si j'arrache, c'est pas normal, c'est un interdit des chachamim. Si j'utilise un ustensile, c'est interdit par la Torah. Maintenant, avant de voir cette différence, on va parler quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a une mélacha de gozès dans une peau qui est mort? Jusqu'à maintenant, on a parlé des cheveux. Cheveux sur un homme. On a parlé des tons de mouton. Le point commun entre les deux, c'est que l'homme, il est vivant et le mouton, il est vivant. Mais si j'ai une peau, un animal qui est déjà mort, que je lui ai dépecé la peau, si j'enlève maintenant à la main, est-ce que ça va être interdit par la Torah ou par les Chachamim? Je vais donner un exemple. Le mieux, c'est, par exemple, les poulets. Pour manger un poulet, on lui fait d'abord la shrita. Après, on l'éplume. Quand est-ce qu'on éplume le poulet? Quand il est vivant ou quand il est mort?
Quand il est mort, c'est péché.
Quand il est mort. Voilà. Pourquoi c'est péché? Parce que c'est tsar balechaim. On ne va pas commencer à enlever éplumer un poulet vivant. C'est tsar, on n'a pas le droit de faire souffrir. C'est un interdit de la Torah de faire souffrir une bête. Une fois qu'il est mort, on enlève. Maintenant, comment on enlève? En général, le derer. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des machines qui épluchent automatiquement. Mais en tout cas, même si on éplume à la main, c'est pas une action bizarre. C'est une action normale. Parce qu'il est déjà mort. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, tout dépend maintenant. Est-ce que la peau, elle est rattachée à une bête qui est vivante? Ou bien, elle est déjà une peau qui est déjà une peau morte? Si c'est une bête qui est vivante, alors l'habitude d'enlever toutes les choses là, ça se fait avec un appareil. À la main, c'est bizarre. Donc, à la main, c'est des rabananes. Avec un appareil, c'est interdit par la Torah. Par contre, une fois que la peau, elle est déjà morte, c'est normal. Si par exemple, on a une peau et qu'on va essayer d'enlever une peau de vache et qu'il y a des petits poils, enlever comme ça les poils une fois que la peau, elle est déjà morte, c'est normal. On fait avec un appareil. ou qu'on fait à la main, le fait d'enlever à la main, parce que le fait d'enlever à la main, pourquoi c'était bizarre tout à l'heure? Parce que l'animal, il est vivant. Qu'est-ce que tu fais comme ça, arraché, c'est pas comme ça, c'est quelque chose de bizarre. On fait ça avec un ustensile, c'est comme exactement quelqu'un qui s'arrache les cheveux. Mais si l'animal est déjà mort et qu'on veut essayer de travailler la peau, on travaille avec un ustensile, on travaille avec la main. Donc dans les deux cas de figure, une fois que ça sera mort, ça sera déjà un interdit de la Torah. Cas pratique à ce qu'on est en train de dire. C'est clair ce que j'ai à dire jusqu'à maintenant? Il y a des questions? Clair pour tout le monde? Ah, dites-moi au moins oui.
Pardon, excusez-moi.
Ouais. Non, c'est quoi je peux enlever sa peau?
Mais pour un animal mort, par exemple, un poulet, comme vous dites bien, pour Shabbat, je peux avant Shabbat.
Non, j'ai pas parlé d'enlever la peau, là, je suis pas à cette étape. Moi, pour l'instant, je parle de gozèse, c'est-à-dire enlever tout ce qu'il y a d'éléments qui prend source de vie dans la peau. Ça peut être des poils, ça peut être des cheveux chez un homme, ça peut être des plumes, ça peut être. De la laine, c'est tout un élément qui est rattaché à la peau.
Donc si j'enlève une plume, par exemple,
oui.
Hein, donc c'est normal.
C'est quoi? C'est normal. Et donc, c'est permis ou interdit?
C'est permis. Si c'est normal.
Si c'est normal, alors c'est quoi?
C'est permis.
Pourquoi c'est permis?
Parce que c'est normal.
Non. Alors je reprends. Voilà, c'est bien que vous m'avez fait cette remarque. C'est-à-dire que c'est pas... Je vois que j'ai pas encore bien expliqué. Donc je réexplique. C'est moi qui mal expliqué. Donc on reprend. Si je fais une action normale, d'accord, et qu'elle répond à la définition de la mélacha, donc ça va être une mélacha, ça va être un acte interdit par la Torah. Si c'est anormal, même si ça répond à la définition qu'on a donnée, puisque c'est anormal, ça descend de niveau et ça devient un interdit des chachamim. Donc maintenant, on va prendre plein d'exemples qu'on a parlé. La plume qui est dans la peau du poulet. Lorsque la plume elle est vraiment incorporée dans la peau, c'est sa source de vie. D'accord? Quand je l'enlève cette plume-là, d'accord? Que j'enlève cette plume, donc je la détache de sa source de vie. Donc si je la détache de manière normale, c'est un interdit par la Torah. Si je la détache de manière anormale, ça sera interdit par les Chachamim. Donc, je reviens à nos exemples. Si j'arrache avec ma main de la laine d'un mouton qui est vivant, ça répond à la définition. Mais c'est anormal, donc c'est interdit par les Chachamim. Si je prends une tondeuse, c'est interdit par la Torah. Lorsque j'ai mon poulet, maintenant on va dire qu'il est déjà mort, et que maintenant je vais essayer de lui enlever les plumes. En enlevant les plumes, ça répond à la définition. Si j'enlève, que ça soit avec ma main ou que ça soit avec un ustensile, les deux c'est normal parce que maintenant il est déjà mort. Donc c'est quoi? C'est interdit par la Torah. D'accord? C'est clair?
Oui.
Voilà. Maintenant je vais donner un exemple très lémaassé que vous allez voir comment on applique, comment on transfère ça à quelque chose qui est très pratique. Si quelqu'un a un manteau de fourrure, un vrai manteau, hein, un vrai manteau de fourrure qui est fait avec la fourrure de lapin ou je sais pas, de lièvre, je sais pas comment on fait les manteaux de fourrure. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans les manteaux de fourrure, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'il y a la peau naturelle dedans. Et sur la peau, il y a les poils naturels. C'est bien ça, oui? Je parle des vrais manteaux. Aaron, c'est comme ça que ça se passe ou pas les manteaux de fourrure?
Tout à fait.
Voilà. Si maintenant, on va dire que je mets ce manteau-là, un beau manteau de fourrure, et que je vois qu'il y a quelques poils qui me dérangent. Donc, je veux les arracher un peu. Il y a quelques poils qui sont un peu ou sales ou peu importe, pour n'importe quelle raison. Je décide d'arracher quelques petits poils à un petit endroit ou en bas du manteau. Est-ce que j'ai le droit?
Hmm?
Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est un cas pratique de ce qu'on vient d'étudier maintenant. Un beau montant de fourrure. Il y a la fourrure, c'est plein de petits poils comme ça qui ont été bien travaillés, mais c'est des poils naturels sur une peau naturelle. Et maintenant, je décide, il y a quelques petits poils en bas du manteau qui me dérangent, j'enlève 2-3 petits poils. Est-ce que j'ai le droit?
Des chachamim.
Des chachamim. Pourquoi des chachamim?
Parce que j'enlève de ma main.
Il y a fait, j'enlève avec la main.
Avec la main, oui.
Oui.
Oui, mais c'est pas une source de vie.
C'est quoi?
On détache pas d'une source de vie, ça n'est pas.
La source de vie ici, où est-ce qu'elle est? Très bonne remarque. Où est-ce qu'elle est la source de vie?
La peau.
C'est la peau.
La peau
est là.
Le
poil, il est intégré dans la peau de manière naturelle. On n'a rien changé. On a peut-être travaillé le manteau. Je ne sais pas ce qu'on a fait là-bas avec le manteau dans l'usine à fourrure. On a dû bien nettoyer. Mais en tout cas, la peau, elle reste avec le poil comme sur le renard. Non?
D'accord. Moi, je pensais que dès lors qu'elle était plus rattachée à l'animal, elle n'était pas.
Ah, justement, c'est ça le... C'est ça ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est que la source de vie ici, c'est pas forcément l'animal, c'est la peau. Lorsque maintenant, on va dire que je viens de tuer un mouton. D'accord? On a fait la shrita du mouton. J'ai dépecé la peau du mouton. Sur la peau du mouton, il y a une couche de laine. Donc maintenant, je détache la laine de la peau du mouton. Donc c'est pas forcément l'animal lui-même, c'est la peau. Donc maintenant, j'ai un cas très pratique ici. Donc maintenant, on revient à notre cas de figure. Enlever quelques poils d'un manteau de fourrure. C'est un interdit des chachamim ou un interdit de la Torah?
Des
chachamim. Tout le monde est d'accord?
Non, c'est de la Torah.
Oh, pourquoi?
C'est ce que vous avez dit. Dès qu'on enlève le poil de sa source de vie, c'est un interdit de la Torah. Et là, c'est la même chose.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a cette peau là?
Bah, le poil est toujours attaché à la peau.
Le poil est toujours attaché à la peau, d'accord. Mais il manque l'essentiel. C'est quoi l'essentiel ici? C'est que la peau, elle est morte. C'est-à-dire l'animal est mort.
Ouais.
Tout ce qu'on avait expliqué que c'est des rabananes, parce que c'est anormal, c'est quand l'animal est vivant. Mais une fois que l'animal est mort, d'accord, alors là c'est peu importe. Il n'y a rien d'anormal d'enlever avec la main, et c'est pareil, la main et l'ustensile, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, arracher les poils d'une fourrure, c'est un interdit de la Torah. Alors ça, il n'y a que quelqu'un qui a étudié la Melechet Gozez qui peut en arriver à cette conclusion. D'accord? Donc d'où l'importance d'étudier dans les sources, de bien comprendre la définition, et après on applique ça à plein de cas pratiques. Exemple classique, par exemple, on va dire comment? Quelqu'un qui enlève les poils de la fourrure, il s'ennuie. Mais on va dire, quelqu'un qui a une fourrure comme ça, avec une saleté dessus. On va dire, un chewing-gum qui s'est collé là-bas, ou une saleté qui est sec. D'accord? Maintenant, il veut nettoyer. En nettoyant, on va dire, on ne nettoie pas avec de l'eau, pour ne pas rentrer dans un autre problème de laver. J'enlève ça à sec, je nettoie à sec, je gratte. Il n'y a pas de problème, ça, sur un habit. Seulement, en frottant et en nettoyant, 100% que je vais arracher au moins un poil, un ou deux poils. Est-ce que j'ai le droit ou pas de nettoyer cette fourrure?
La cabane, c'est pas d'enlever les poils, c'est de
nettoyer. Oh, très bien. Là, on commence à rentrer dans les règles de l'Ilkhot Shabbat, qui sont déjà expliquées en long en large dans les cours d'introduction d'ailleurs. Je crois que c'est David, c'est ça? Ouais. Ma kavana, mon intention, est-ce qu'elle est d'enlever les poils de la fourrure ou bien d'enlever la saleté?
D'enlever la saleté.
D'enlever la saleté. Et alors? Alors, ça devient permis ou c'est interdit?
Déjà pas de la Torah.
Voilà, ça tu
parles. Je pense que c'est interdit.
Commence par la fin là. On continue, toujours comme on a l'habitude. C'est des raisonnements, c'est la règle. C'est la fameuse règle du psychréché. C'est-à-dire, la deuxième question, première question qu'il faut se poser, c'est comme ça. Est-ce que j'ai l'intention? Non, j'ai pas l'intention. Ah, si j'ai pas l'intention, ça doit être permis. La Torah, quand on nous dit de faire des melachot, c'est si on a l'intention de les faire. Seulement, il y a un problème ici, c'est que c'est 100% que l'action interdite va se faire. C'est-à-dire que je fais deux actions. Première action qui est tout à fait permise, ça enduit une saleté. Ça ne rentre pas dans les 39 travaux, 39 actions interdites. Mais inévitable que je fais l'action interdite qui est, comme on a bien expliqué, ça enlever les poils de la fourrure, qui est Melacha de la Torah. Alors là, même si je n'ai pas la kavana, même si je n'ai pas l'attention, mais comme c'est 100% que ça va se faire, ça devient interdit. Interdit des chachamim ou interdit de la Torah? Hmm? Pourquoi? Non, moi j'ai pas la kavana.
Pas la kavana, mais.
Je n'ai pas l'intention.
J'ai pas l'intention, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est 100% que ça se fasse. Alors là, on rentre dans le troisième critère qui s'appelle Nihale ou lo Nihale. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Ça, c'est un klal qui est important. Je me demande s'il ne faudrait pas que je refasse un nouveau chiot sur ce clal-là, parce que ça revient à toutes les sauces, ça, dans les Chod Shabbat. Là, on va réfléchir à ça. Première question, j'ai pas l'intention. Ça s'appelle Eno Mitkaven. Deuxième chose, c'est 100% que ça se fasse. Mais, troisième critère, je suis pas intéressé. Moi, je voudrais que ma fourrure, elle reste fourrure comme elle vient du magasin. Pourquoi lui enlever quelques poils? Parce qu'il y a une saleté. Donc je ne suis pas content de ce résultat. Donc le fait que je ne suis pas content, ça descend de niveau et ça devient un interdit des chachabim. Mais je n'ai pas le droit de le faire. C'est-à-dire c'est un sourd. Pourquoi? Parce que c'est 100% que l'action interdite se fait. Donc peu importe que je n'ai pas l'intention et peu importe que j'ai pas de profit de ça et que ça ne m'intéresse pas, c'est l'oni chalé. Quand même, l'action interdite se fait de manière inévitable, c'est interdit. Qui c'est qui a compris ce que je viens de dire là? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Hein? Tout le monde a compris ce que je viens de dire? Je vois qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que personne n'a compris. Hein? C'est très bref, j'ai condensé un grand klal qui est dans le Chod Shabbat. Je crois que la semaine prochaine, si vous venez tous ensemble, on va reprendre cette règle-là. Parce
je ne suis pas intéressé, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas non plus, donc je ne suis pas intéressé, je n'ai pas l'intention non plus, mais je fais quand même une faute.
Ça se fait de manière inévitable.
Voilà, ça se fait de manière inévitable. Voilà.
Voilà, c'est-à-dire je fais la melacha, mais puisque je ne suis pas intéressé par ça, alors ça devient interdit par les chachamim. En hébreu, ça s'appelle davar she'eno mikaven psikreche de lo nichale. Ça, c'est en hébreu. Top. Par la suite, on va voir en plusieurs cas pratiques, vous allez voir, ça va rentrer les athlètes, cette règle-là. C'est une règle qui est très importante parce qu'on applique beaucoup de choses pratiques, les masses. Et... Donc, je reviens à ma fourrure, on résume. J'ai une peau avec des poils de fourrure. Hein. C'est une peau naturelle et c'est des poils naturels qui n'ont jamais été séparés. Si je fais un manteau de poils maintenant, en général, quelqu'un qui a des manteaux, qui a des beaux manteaux, qu'on a détaché les poils et qu'on a mis ça sur un tissu, ça n'a rien à voir avec la melacha de Gozès. Ça a déjà été détaché, c'est fini. Seulement là, le poil, les poils du, je sais pas, du renard, ils sont attachés à sa peau naturelle, ils n'ont jamais été séparés. Donc quand maintenant je décide d'arracher, c'est l'action de Gozès qui est interdite. Et que je le fasse avec ma main, ou que je le fasse avec un ustensile, peu importe, dans les deux cas de figure, ça interdit la Torah. D'accord? Et maintenant, même si je fais une autre action interdite, permise, comme on devine une saleté sur le manteau, mais inévitablement j'enlève les poils, ça sera ainsi interdit. Parce que c'est inévitable que ça se fasse.
Donc se gratter les cheveux pendant le Shabbat, c'est interdit.
Oh, très bien, on va y arriver ça. Je ne sais pas si on va être maspique aujourd'hui. Quelle heure il est maintenant? Ah, il est déjà 10h. Enfin, 9h pour vous. Chez nous, il est 10h. Donc, on va, ça sera la semaine prochaine. On va On va, pour l'instant, on a parlé que du monde animal. On va monter de niveau la semaine prochaine, on va parler de l'homme. On va parler des ongles, des cheveux. Est-ce qu'on peut se coiffer le jour du Shabbat? Est-ce qu'on peut se gratter les cheveux? Il y a beaucoup de cas de pratique, mais allez. Est-ce qu'on peut se ronger les ongles? On va voir ça la semaine prochaine. Juste pour terminer, un dernier petit cas pratique, les maasé. Si maintenant j'ai une poule de. Je mange du poulet le jour du Shabbat. D'accord? Maintenant, un morceau de poulet, il y a le poulet et il y a la peau. Seulement, il y a une mauvaise cuisinière qui a cuisiné le poulet. Et il y a des poils, il y a encore quelques petites plumes sur mon poulet dans mon assiette. Ouais? Il a été mal éplumé, mon poulet. Ça arrive des fois. Dans les ailes, des fois, ça arrive. On va dire. Ouais. Et maintenant, il est dans mon assiette, mon morceau de poulet cuit, ouais, que j'ai cuit avant Shabbat, bien sûr. Et il y a quelques petits, deux petites plumes dans mon poulet, bien sûr. Pas à côté. Est-ce que j'ai le droit d'enlever? Si, on va manger le poulet, le poulet, on va le manger. La plume, jamais on la mange. Qui mange des plumes? Mais on a dit qu'une peau qui est morte, on n'a pas le droit d'enlever. Ah, très bien, ça c'est la réponse. La réponse est que puisque cette peau elle est cuite, c'est différent. Maintenant il faut expliquer pourquoi. Peu importe qu'elle est cuite ou crue, que ça peut me faire.
C'est plus une source de vie pour la pluie, c'est fini.
Oh, très bien. Première différence, première réponse, c'est que qu'est-ce qui fait que c'est la source de vie? C'est parce que c'est bien attaché à l'intérieur. Un poil, lorsqu'il est dans la peau, il est incrusté dans la peau. Pareil, une plume, elle est vraiment dans la peau. Pareil, de la laine, la source de la laine où j'arrache, elle est vraiment bien dans la peau. Quand on cuit, toute la peau, elle se dilate. Et donc la plume n'a aucune source de vie. Donc on a en fait tué la source de vie en faisant cuire la peau. Donc maintenant enlever la plume du poulet, c'est plus du tout mais les raids gauzes. Donc c'est permis. Deuxième argument que c'est permis. Deuxième argument, c'est que la peau elle s'appelle plus peau. Ça veut dire quoi? Quand je cuis, ça s'appelle maintenant aliment. Tant que j'ai pas encore cuit, ça s'appelle poulet avec de la peau. La peau crue s'appelle or. Dès que maintenant je cuisine, ça devient aliment. Donc c'est plus du tout la définition d'enlever de sa source de vie qui est peau naturelle. C'est plus du tout une peau. Quand je cuis maintenant le poulet avec sa peau, il n'y a plus de différence entre le poulet et sa peau. Les deux, c'est un aliment. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est pas du tout source de vie. Et donc c'est plus du tout aussi peau, ça s'appelle l'aliment, c'est ochel. Et donc il n'y a aucun problème d'enlever cette plume. Maïm melechet borer, enlever le mauvais du bon. Hein? Il n'y a pas un problème de trier? C'est? Alors c'est immédiat. Si c'est immédiat, qu'est-ce que j'ai le droit quand c'est immédiat? Rappelez-vous des cours sur Borer, le fameux. J'ai une plume comme ça. J'ai un morceau de poulet dans mon assiette. Et on a mal éplumé ce poulet. J'ai une petite plume comme ça qui est attachée sur le poulet. Mais mon poulet, il est cuit. Donc on a dit, gozèse, il n'y a pas. D'accord, Borer. J'enlève le mauvais. J'enlève la plume elle me dérange. Oui. C'est trié ça. Non, ça suffit pas, c'est pas encore une réponse ça. Si j'ai une saleté dans un mélange comme ça, j'ai une saleté qui est dans un aliment. Même si j'enlève la saleté et que je mange tout de suite, c'est interdit. Rappelez-vous, ami. Ami, c'est aliment Main, immédiat. Aliment, c'est pas le obsolète, c'est pas le mauvais. Là, j'enlève le mauvais, même si c'est tout de suite, j'ai pas le droit. Qui se rappelle des cours de trier, Borer?
Hmm? Mais il faut prendre le bon du mauvais
et pas le mauvais du bon.
Et immédiatement.
Voilà. Mais là, j'enlève le mauvais du bon, j'enlève la plume. Alors, on a dit comme ça, je vous rappelle. Dans les cours de Borer, on a vu que si on n'a pas d'autres possibilités, ça veut dire que. Comment je peux enlever? Si la plume, elle est plantée dans ma peau de poulet qui est cuit, comment je peux enlever le poulet de la plume? Hein?
Avec un ustensile, avec.
Il n'y a pas de moyen. C'est comme, rappelez-vous, la peau de l'orange. Éplucher une orange, j'ai le droit à Shabbat?
Oui, parce qu'on ne peut pas.
On n'a pas accès aux fruits si j'enlève pas la. Si j'enlève pas la peau de l'orange. Donc pareil ici, je ne pourrais pas avoir accès à manger mon poulet de manière normale si j'enlève pas la plume. C'est-à-dire, je ne peux pas enlever le poulet de la plume.
Ouais. Si on enlève la plume avec les doigts.
Peu importe avec les doigts, mais en tout cas, l'interdit de Borer, je vais mieux expliquer. L'interdit de Borer, c'est quand j'ai un aliment qui est mauvais à côté du bon. Les deux, il y a juste un mélange. Il n'y a pas quelque chose qui est ancré dans l'autre. Donc si j'ai un mélange et que je sépare le mélange, là, l'interdit, il est de Borer. Mais si maintenant, je n'ai pas accès au pont, sans enlever, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autre possibilité, je ne peux pas enlever le poulet de la plume, je suis obligé de retirer la plume. Donc c'est comme la peau de l'orange, je ne peux pas enlever l'orange de sa peau, je suis obligé d'enlever la peau. Donc ça devient une manière de manger, derech achila, et donc c'est comme le A de Ami, enlever l'aliment.
D'accord.
Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Donc j'ai le droit maintenant d'enlever, si cette plume me dérange pour arriver au poulet, j'ai le droit d'enlever cette plume, il y a ni gozez, parce que le poulet il est cuit, mort et cuit, c'est pas seulement mort, c'est mort et cuit, ça enlève toute la source de vie. Et il n'y a pas de problème de borer, puisque je ne veux pas avoir accès, je ne veux pas en faire l'inverse. Je ne veux pas enlever le poulet de la plume, je suis obligé d'enlever la plume. Donc ça devient un derrière de manger, c'est comme la peau. Si j'ai une peau qui se trouve sur mon poulet et que je veux avoir accès au poulet, j'ai le droit d'enlever la peau. D'accord? Donc c'est pareil. La peau ou la plume, c'est exactement pareil. C'est quelque chose qui recouvre, qui m'empêche. Donc ça sera dans les deux cas permis. À condition, bien sûr, de quoi?
De soit
De
que ça soit immédiat.
Voilà, exact. Que je mange le poulet maintenant. Pas que je prépare pour plus tard, pour plusieurs heures. Là, c'est rendant borer. C'est le I de Ami. Voilà. Top. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continue la Melacha de Gozez. Voilà.
Merci.